Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette émission littérature qui sera consacrée au livre Shadowfall, dans le fond le deuxième volume de la trilogie de l'escadron Alphabet d'Alexander Freed. Ici Francis, et pour discuter de ce livre, je suis accompagné de Jean-François Richard. Bonsoir Jean-François.
Salut Francis et salut à nos auditeurs.
Donc, allons-y tout de suite en WhatsApp. Quoi de neuf côté Star Wars pour toi, Jeff?
Côté Star Wars, c'est très... Il n'y a pas grand-chose. J'ai eu quelques petits problèmes de santé qui m'ont tenu à l'écart de mes activités régulières pendant presque deux semaines. Donc, la seule chose Star Wars que j'ai, c'est j'ai lu l'audio... j'ai écouté l'audio-drama de Dr. Aphra. C'est pas mal ça. C'est ceux qui l'ont pas lu, qui l'ont pas écouté encore, j'ai trouvé ça assez ordinaire. Donc... dépêchez-vous pas à dépenser votre argent pour, je pense que ça vaut pas la peine.
Si tu comparais avec l'autre audio-drama qu'il y avait jusqu'ici, là, celui de Dooku, Jedi Lost.
Ouais, j'ai préféré Dooku. Mm-hmm. Même si Dooku, je trouvais que les voix ne matchaient pas. Là. Mais j'ai préféré Dooku à Dr. Aphra. Je pense que je réalise que, ben, comme on a parlé un peu hors d'onde, que Dr. Aphra... comme personnage principal, ça fonctionne pas. Je pense qu'elle est plus forte quand c'est un personnage secondaire. Mm-hmm. En tout cas, je veux pas élaborer énormément là-dessus, mais si vous avez lu les BD de Darth Vader ou la première série de Dr. Aphra, vous connaissez pas mal l'histoire qui se passe dans l'audio-drama. Donc, c'est un peu
une synthèse.
Une synthèse, merci. C'est une synthèse de ce qui a été fait par Marvel. Donc, c'est rien de... Il n'y a pas grand-chose de nouveau dans l'histoire.
OK. Ben, écoute, c'est excellent. On va d'ailleurs, je vais profiter pour te souhaiter en ondes un prompt rétablissement là, suite à tes péripéties médicales.
Merci.
On va appeler ça comme
et
ça.
Et toi, de ton côté?
Moi, de mon côté, c'est relativement tranquille. Il faut dire que je sors tout juste de vacances, dans le fond, depuis lundi. Donc, le retour à la réalité. C'est ça, en dehors des deux Alphabet Squadron, donc le premier en version française et le second en audiobook, vu qu'il n'existe pas encore en français. Sinon, j'ai commencé la lecture d'un petit... je l'ai aussi, hein, des bibliothèques vertes de Star Wars, là, sur publié par Hachette. Et dans le fond, il y a eu une série de livres et BD, ça s'appelait « Le vol du Faucon », avec différents personnages à différentes époques. Donc là, chez Bibliothèque Verte, c'était deux. Il y en avait un, dans le fond, sur Lando, à l'époque de Lando et L337. Puis mm-hmm. le deuxième, c'est Han Solo, Chewbacca, et à l'époque plutôt de... on va dire que c'est... ça se passe, je crois, avant l'épisode 4, mais bref, c'est raconté par Hondo Anaka, et ça raconte pourquoi il y a eu le vaisseau, là. Tu sais, parce que dans le fond, quand vous allez au parc de Galaxy's Edge, ben c'est Hondo qui est maintenant propriétaire intérimaire, du vaisseau. Fait que c'est tout ça, ça raconte tout ça, mais j'ai eu la désagréable surprise que les pages du livre s'arrachent presque toutes. Ça me met en furie, là, ça... Puis je peux pas tant lancer la pierre à Hachette parce que c'est la première fois que ça me fait ça avec leur livre. Mais, puis tu sais, en plus, mettons, quand t'achètes ça pour toi, puis que t'es le seul à lire, au pire, après que tu l'aies lu, que les pages soient plus égales, tu sais, puis ça, c'est pas trop grave. Mais tu sais, chez nous, on est 5 lecteurs de Star Wars. Fait que, puis en plus, je passe les livres des fois des amis. Fait que, disons que moi, les livres.
C'est quoi, ils ont changé la qualité du livre?
Je sais pas. Puis tu sais, ça m'était jamais arrivé. Là, j'en ai plein d'autres, là, des bibliothèques vertes. Fait que je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais tu vois, ça m'est déjà arrivé aussi avec. C'est quoi? Donc, c'était Étoile perdue aussi. Il y avait plein de pages qui s'arrachaient. Ça, c'était chez PKJ, dans le fond.
Ok.
Fait que tu sais, dans le fond, ça, des petits défauts de fabrication, peut-être des fois, là, que la colle, ça a séché trop vite ou quoi. Là, mais bref, c'était ma mésaventure de littérature Star Wars. C'est relativement tranquille. La réécoute de Rogue One en 4K, parce que je suis allé me chercher le seul le seul que j'ai acheté là, parmi tous ceux qui ont sorti en 4K récemment. Okay. Donc, Rogue One étant mon favori, on s'est retapé ça, là, et c'est fou la quantité de détails qu'il peut y avoir dans ce film-là.
Et ah, là, écoute, et avec la
4K, si, là, c'est fou, là, tu découvres des petits détails insignifiants, mais tu sais, c'est, en tout cas, c'est juste merveilleux.
Si t'as le système de son pour, là, la piste Dolby Atmos là, est assez écœurante.
Ouais, non, moi j'ai un vieux 5.1 quand même, là, mais okay. Je suis loin du Atmos, je suis pas non plus là, d'une salle de cinéma, mais c'est ça, ça va être la prochaine étape là, probablement, là, le système de son, mais... Tu sais, juste au niveau de l'image, je me disais, parce qu'il n'était jamais sorti en 4K, en Rogue One, c'était sorti avant que la technologie se démocratise. Puis là, je me demandais à quel point il va y avoir une différence avec le Blu-ray, tu sais. Puis, faut quand même, c'est assez notable quand même. Bref, je le conseille à tous. Tu sais, j'ai vu sur Disney+, la différence sur les films de la trilogie originale. Mais il ne faut pas se le cacher, on parle de caméras des années 70 puis 80. Là. Donc, tu sais, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour améliorer l'image, là, mais c'est pas non plus comme si c'était des caméras modernes. Tandis que là, avec tous les films de la nouvelle époque, on va dire, c'est incroyable comme spectacle. Là, fait que je vous conseille à tous. Je sais pas à quel point ça vaut la peine pour tous les films. Peut-être que c'est une question de ce que vous préférez. Là. Si vous avez envie de revoir l'attaque des clones en 4K, là, je vous jugerai pas. Mais bon, peut-être un peu quand même. Mais c'est pas. La bataille de la fin doit être très, très impressionnante quand même en 4K.
Bref. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué, ce qu'il avait fait, c'est que la version 4K de la trilogie originale. Les effets spéciaux, ce que tu sais, l'édition spéciale là, du 20e, qui avait refait les nouvelles séquences en CGI, là, en graphisme. Là.
Ouais, en
97. Ça a pas bien vieilli parce qu'ils ont pas augmenté la résolution des effets spéciaux à 4K. Fait que c'est comme l'image est comme. Le transfert de l'image est en 4K, mais les effets spéciaux sont encore comme en HD normal. Fait que c'est vraiment weird. Même pendant, je me souviens plus si c'est la menace fantôme, c'est la même chose, sauf qu'à partir de l'attaque des clones, là, tu vois que, c'est vu que ça a été filmé sur caméra numérique, là, les deux derniers films de la trilogie, en 4K, là, ça vaut vraiment la peine.
Ouais, le pire, en fait, je pense que c'était Jabba dans l'épisode 4, là, quand il l'avait inséré, qui venait lui-même chercher Solo là, au hangar sur Tatooine.
Ouais,
écoute, d'un autre côté, réécouter les versions originales là, démasterisées là, sur un équipement 4K, écoute, je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Là. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Et il y a des inconditionnels aussi hein, de ces versions-là. Je pense que c'est pas Malgus d'ailleurs là, qui est quasiment un militant de ces versions-là. Mais on s'égare, on est dans une émission littérature et non, on fera une émission spéciale un moment donné, là, version moderne justement de tous les films. Ça pourrait quand même être intéressant de comparer. Donc on va peut-être mentionner nos émissions récentes. On a eu, le plus récemment, c'était un Star Wars en direct, Making of, justement sur la menace fantôme, faite par Martin et Margot, donc toujours aussi agréable à écouter, puis on découvre une quantité de détails qu'on ignorait, là, c'est quand même impressionnant. Et dans une bonne humeur, en tout cas, moi je trouve que c'est leur marque de commerce, Martin et Margot, c'est vraiment, c'est dur de pas avoir le sourire en les écoutant, honnêtement. Sinon, on a eu un Star Wars en direct régulier là, sur les actualités, donc surtout sur la cancellation de l'annulation, dans le fond, de la célébration Anaheim, auquel tu as participé et lorsque vous avez testé toutes les nouvelles versions là, de notre live sur YouTube là, pour les Star Wars en direct régulier en vidéo. C'était très impressionnant. Sinon, il y a eu aussi celui Gamer sur tout ce qu'on a appris sur le jeu Squadron, dont on va parler un peu ce soir. Et sinon, côté Star Wars 101 sur YouTube, ben, c'est la pause estivale, donc on vous propose plutôt tous les épisodes qu'on avait déjà sortis en reprise chaque semaine sur Facebook. Et l'air de rien, ça permet de rejoindre un public sur Facebook là, qu'on rejoignait pas du tout sur YouTube, fait que c'est quand même bien intéressant. De ce côté-là, on a encore plein de commentaires, toujours très le fun à avoir. On rappelle pour ceux qui sont pas avec nous dans le chat en ce moment que pour joindre notre communauté de fans et d'auditeurs ainsi que pour participer à nos enregistrements live, rejoignez notre serveur Discord. Et puis pour montrer vos couleurs, dirigez-vous vers la boutique Star Wars en direct pour vous procurer des t-shirts et des produits dérivés, soit à l'image de Star Wars en direct ou de Star Wars en général, donc à starwars.direct/boutique ou directement sur notre site. Vous allez voir, il y a un bouton pour y aller directement. On va remercier rapidement nos partenaires Mintinbox, Star Wars Euronet, Siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Et sur ce, Jeff, on va passer en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Donc, côté actualité littérature, sans prendre une heure juste là-dessus, t'as déjà mentionné tantôt, JF, l'audio-drama de Dr. Aphra qui est maintenant disponible depuis le 21 juillet. Donc, comme tu as dit, c'est essentiellement ce qu'on a déjà vu dans les comics avec quelques détails ajoutés. Sinon, on a le livre Young Adult Poe Dameron Freefall qui sort la semaine prochaine, le 4 août. Donc, il y a déjà quelques critiques qui ont commencé à pulluler sur le net. Moi, personnellement, il y avait eu un extrait qui était sorti ce printemps. Puis c'est quelque chose que j'avais bien hâte de voir le résultat parce que, entre autres, l'extrait, on avait droit à de quoi quand il était encore sur Yavin. Donc, on sait que Poe Dameron a grandi sur Yavin 4 avec ses parents, des anciens rebelles. Donc, c'est ça, je trouvais ça bien intéressant de voir ça. On va voir la semaine prochaine si ça valait l'attente. Et une nouvelle qu'on a eue plus récemment, c'est l'annonce de certains produits littéraires en lien avec la série de Mandalorian, dont un roman original qui va paraître par un certain Adam Christopher. C'est prévu pour le mois de décembre qui s'en vient. Fait que c'est quand même, ça arrive quand même assez vite. Et j'ai envie de dire, il était temps qu'ils se réveillent, hein, parce que, tu sais, quand ils font des films ou, tu sais, même les jeux vidéo, souvent on a des livres qui sortent en même temps ou avec, tu sais, et là, la méga série, là, tu sais, qui a fait le succès de Disney+, ben, on n'avait à rien.
Non, pis écoute, pas de livre, pas de comics. Il y a du stock à aller chercher là-dedans. Il y a beaucoup d'histoires à aller raconter. Hein.
C'est clair, tu sais, t'as toute la mythologie des Mando, mais t'as aussi la période qui peut être très riche là, en histoires de toutes sortes. En tout cas, moi, ça m'avait stupéfait à quel point il y avait eu. Tu sais, pour les jouets, puis Baby Yoda, tout ça, je me disais, bon, il voulait garder le secret, c'est une chose. Mais qu'il n'y avait pas de comics, pas de livres, rien pantoute, j'en revenais tout simplement pas. Donc, on va finir par en avoir. Ça va finir par arriver en décembre prochain.
Et aussi aujourd'hui, ben, on a su que The Mandalorian a été nominé pour 15 Emmy, dont meilleure série dramatique, qui est assez surprenant. Je suis pas sûr que ça mérite meilleure série dramatique, mais en tout cas, 15 nominations, c'est super bon.
Ben en fait, je serais curieux de voir ce qu'ils entendent par série dramatique, parce qu'effectivement, c'est pas la liste de Schindler non plus. Là. Fait que, mais en tout cas, on souhaite quand même tout le succès à la série qu'on a beaucoup aimée. Donc, en attendant la saison 2 bientôt. Et pour revenir sur notre sujet du jour, JF, si tu pouvais nous lire le synopsis de l'éditeur de ce Shadowfall.
Oui. Alors, Shadowfall, le deuxième livre de la trilogie sur Alphabet Squadron. Donc, dans ce nouveau roman de la trilogie Star Wars, la poursuite des chasseurs-terre mortels par l'escadron continue. La nouvelle de la victoire de la Nouvelle République continue de se propager dans la galaxie. Dans son sillage, des vaisseaux capitaux du nouveau gouvernement galactique légitime voyagent vers des systèmes lointains, recherchant et anéantissant les vestiges de la tyrannie impériale. Mais quelques vieux fantômes sont plus durs à éradiquer que d'autres. Et aucun n'est plus dangereux que l'escadre de l'ombre. L'hétéroclite escadron alphabet d'Erika Quell dirige la recherche de l'escadre de l'ombre, mais ils ne se rapprochent pas de leur objectif et la pression de retrouver leur proie avant qu'il ne soit trop tard commence à créer des tensions entre eux. Déterminés à achever le combat une bonne fois pour toutes, Quell travaille avec le controversé agent des renseignements de la Nouvelle République, Karn Adam, et avec la légendaire générale Hera Syndulla afin de préparer la mission la plus risquée de sa carrière de pilote de chasseur, un piège pour l'escadre de Londres, de l'ombre qui pourrait mettre définitivement fin à la traque. Mais dans l'ombre, l'ennemi a évolué. Soran Kaes, dernier des As impériaux, a pris place dans le vide laissé à la tête de l'escadre de l'ombre, revigorant le groupe défaillant au moment où ils en avaient le plus besoin. Jadis égaré à la suite de la guerre, Kaes a retrouvé une signification à sa vie, menant les soldats perdus de son unité vers la sécurité. La seule chose se trouvant sur son chemin, l'escadron la plus dépareillée de la flotte de la Nouvelle République, dirigée par son ancien stagiaire, la traîtresse Erika Quell. Alors, c'est ça.
Yes, donc, on va donner quelques infos techniques avant de tomber en mode de critique. Et on vous prévient, on va commencer dans le fond par une section sans spoilers, comme d'habitude. Et on va vous avertir quand on va tomber en spoilers. Donc, si vous préférez avoir lu le livre et revenir écouter le reste de l'émission par après, donc vous serez prévenus. Mais c'est ça, on l'a mentionné, le livre est par Alexander Freed, hein, c'est un auteur quand même qui roule sa bosse depuis longtemps dans l'univers Star Wars. C'est loin d'être un nouveau, il a écrit sur beaucoup de jeux vidéo, sur plusieurs des livres références, hein, les beaux livres comme ils disent en France, plusieurs nouvelles aussi, et dans le fond c'est son quatrième roman comme tel de Star Wars. Donc il y avait eu Battlefront, le premier Battlefront, le Twilight Company. Il y avait eu la novélisation de Rogue One, évidemment le premier Alphabet Squadron, et maintenant le second. Donc, celui-ci se déroule en l'an plus 4. Donc, après le premier, dans le fond, c'est pas précisé là, dès la première page, mais par les événements qui se déroulent dans le ou qui sont narrés là, dans le livre, on comprend que ça se passe après le premier tome de la trilogie Riposte de Chuck Winding, donc Aftermath là, en anglais, mais avant le troisième, donc avant la bataille de Jakku, la chute de l'Empire là, dans la trilogie Riposte. Donc c'est ça, on pourrait dire que c'est à peu près en même temps que le deuxième tome qui était, je cherche le nom, c'était Dette de vie. Ouais, Dette de vie, où est-ce qu'on retrouvait Han Solo et Chewbacca.
Ouais, là-bas. Le deuxième, ouais, c'est ça. Ouais.
Bref, c'est ça, en l'an plus 4. Donc, 416 pages cette fois-ci, c'est relativement le même format que le premier volume, ou presque. Mm-hmm. Et du côté audio, on parle quand même d'un 14h45. Donc, pour vous donner une comparaison avec notre dernière critique, là, que notre dernière émission avec Cécilie, c'était sur Queen's Peril qui faisait un 6h. Et là, cette fois-ci, on a 14h45.
C'est donc, pas le même calibre.
C'est ça, pas le même quantité de stock, mettons. Hein? Et, un petit rappel des comparatifs de nos notes qu'on avait donné, JF, dans le fond, il y a quoi? Un peu plus qu'un an, on avait fait la critique du premier volume, Alphabet Squadron. Ouais. Toi, t'avais moins aimé un peu, je lui avais donné un 11 sur 20. Oui. Et de mon côté, j'avais beaucoup aimé, je lui avais donné un 18 sur 20. Et je me souviens, tu t'étais étouffé dans ta barbe en entendant ça, comme tu fais souvent. Et c'est un peu de là aussi qu'était parti notre mythe selon lequel on a toujours des critiques complètement opposées.
Oui, c'est vrai.
Bref, écoute, qu'est-ce que t'as pensé, JF, sans spoilers évidemment, de ce deuxième volume?
Ben, je peux commencer par dire que j'ai adoré ce livre. J'ai vraiment, vraiment aimé comparativement au premier. C'est vraiment, c'est le deuxième livre d'une trilogie et ça paraît, tu sais, ça fait penser à n'importe quel film d'une trilogie. L'histoire, c'est dramatique, ça finit sur un punch qui donne vraiment l'envie de voir la suite ou de lire la suite dans ce cas-ci. On sait qu'on a pour un an à peu près à attendre. J'ai adoré. J'ai adoré le développement de certains, ben pas certains, mais des personnages. Je crois que. Comment je peux dire? Je crois qu'Alexander Freed il a pris plus le temps de développer les personnages qui étaient moins développés dans le premier. Je pense entre autres à Chass. Mm-hmm. J'ai trouvé que c'est mon personnage préféré de ce livre. Je trouve qu'elle a vraiment une histoire qui est quand même forte. Elle a une bonne motivation. Elle est obligée de faire face à la façon dont elle grandit. Ce que j'aime, c'est qu'elle analyse comme la différence entre la peur et la dévotion. Comment je peux dire ça? Elle considère aussi comme... elle a toujours la peur de l'échec ou les conséquences face à l'échec. Mm-hmm. C'est comme quelque chose qui fait partie de sa famille. En tout cas, j'ai vraiment aimé de la façon que Alexander l'a développé. Malheureusement, Keros, qui est comme le pilote mystérieux de l'escadron, a pas vraiment plus de développement. Il est même absent pendant une bonne partie du livre. Mm-hmm. Pour ce qui est de Will Lark, Will Lark, il est comme un peu le flanc mou, hein, je trouve, que de l'escadron. Sauf que je trouve ça... Tu vois qu'il est traumatisé par la guerre. C'est une chose que j'ai bien aimé, la façon qu'il a développé dans cette histoire-là. Mm-hmm. Même, je trouve qu'il est dans l'une des meilleures scènes du premier livre où il partage brièvement un canal de communication ouvert avec son ennemi. Ouais. Si je me rappelle, je pense que c'est Blink, qui est un des pilotes Thaï. Fait qu'il communique avec lui comme vraiment là, juste comme ça. Là, je trouvais ça cool la façon dont ça a été fait. Puis bien sûr, il y a la générale Hera Syndulla qui est vraiment toujours aussi. Comment je peux dire? Sa présence est toujours aussi forte, hein, quand elle est là dans les scènes, parce qu'elle n'est pas là. Je trouve qu'elle n'est pas autant dans le livre qu'elle l'était dans le premier.
Ouais, c'est clair.
Mais chaque scène qu'elle fait partie, chaque séquence qu'elle est là, sa présence est vraiment forte. Puis c'est un personnage qui a été très bien développé dans Rebels, mais qu'Alex Edelfried, il développe extrêmement bien aussi dans les deux livres qu'il a fait. Petit point faible, pour moi, comment il s'appelle, l'ennemi, le général Sorankaz, qui est, pas le général, mais le commandant impérial.
Mm-hmm. En fait, il est major au début du livre.
Ouais, c'est ça, il est major au début du livre. Il se voit comme le protecteur paternel de ses pilotes. Mais il est vraiment dur avec eux. Il veut les endurcir et tout ça. Mm-hmm. Mais je trouvais que il a pas l'air vraiment d'un méchant. C'est pas un méchant l'empereur ou comme. Ou tu sais, comme Darth Vader, il n'y a pas cette présence-là de méchant. C'est un peu plus ambigu. Je trouvais que ces scènes avec lui étaient un peu plus ordinaires. Une chose aussi que j'ai. C'est peut-être moi. Parce que moi, je l'ai lu, j'ai pas écouté le livre audio. Mm-hmm. Fait que je sais pas, pour moi, ça m'a comme frappé. Mais une des choses que j'ai remarqué, c'est que. Quand un personnage meurt, il y a un personnage qui meurt, mais écoute, ça s'éternise là, sur des pages. Il meurt comme super lentement. c'est correct parce que l'auteur nous fait passer à travers plusieurs émotions et tout ça. Mais j'ai trouvé que sa technique de produire la douleur c'est prolonger l'expérience, c'est comme, puis même le personnage le dit, il dit quelque chose comme la mort c'est une promesse qui est non tenue, c'est comme il est souffrant puis ça finit pas là. Mm-hmm. J'ai trouvé ça super drôle, je trouvais ça bizarre que ça soit comme étendu de même. L'autre chose que j'ai aimé, c'est que si vous avez lu les livres X-Wing dans l'univers légende, mm-hmm. C'est ce qui se rapproche le plus d'essayer X-Wing. Les scènes de combat sont super bien décrites. Alexander Freed, il va pas à peu près. C'est vraiment, là, il fonce, comme je peux dire, c'est comme s'il fonce dans le tas. C'est drôle parce que ça va tellement vite des fois que les personnages, on sait même pas, ils savent pas si leurs amis ou leurs ennemis sont morts encore ou si sont encore vivants. Mm-hmm. On voit que les gens se battent, sont déterminés à avancer, puis ils veulent gagner, puis tout, mais on dirait qu'ils savent pas pourquoi ils se battent.
C'est le mode survie, dans le fond.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme ils vivent sur l'anxiété. Mais c'est ça. Si vous avez adoré X-Wing, vous allez adorer ce livre-là. Puis, là, c'est dans la section non-spoilers, mais le punch, je crois que c'est la fin la plus surprenante et la plus exaspérante, et puis je dis ça dans le bon sens, là, qu'on a eu dans un livre Star Wars jusqu'à présent, depuis que Disney a refait le canon.
Ah ouais, à ce point-là?
Moi j'ai trouvé le punch là, pourtant j'aurais dû le voir venir.
Ouais, ben là c'est ça, c'est un semi-spoiler, parce que là tu préviens les gens qu'il y a un méga punch à la fin, fait qu'ils vont se demander pendant toute la fin.
Ouais, mais c'est un punch dans ouais, c'est ça, là, attention, là, je suis en train de mettre les attentes très hautes, là. J'ai trouvé que la façon que ça finit, c'était comme, oh man, puis là faut attendre un an avant de voir la suite. ouais. C'est quelque chose que, non mais c'est quelque chose que je trouve qu'il manquait beaucoup dernièrement dans ben faut dire aussi que les livres dernièrement c'était plus des histoires de un livre.
C'est ça,
on n'a pas eu grande trilogie ou duologie là, en tant que livre là. Mm-hmm. Même si on regarde la trilogie Tron qui a été faite, c'est comme à trois époques différentes, donc il n'y a pas vraiment punch à suivre là.
Ouais, puis il y avait la série Rebels entre les livres, tu sais, fait que
ouais, c'est ça exactement. Mais en tout cas, je trouvais que ça, écoute, on avait des choses comme ça dans l'univers légende. Puis, en tout cas, j'ai trouvé que celui-là, ça, pour moi, en tout cas, il a été très efficace. Donc, ça, j'étais super content. Donc, c'est ça. J'ai adoré. Je le conseille fortement à tous. Mais vous devez lire le premier livre. Sinon, vous n'allez rien comprendre.
Ouais, faut avouer que c'est vraiment une suite. Hein,
c'est ça, exactement. Malheureusement, c'est pas un livre qui peut se lire tout seul. Mm-hmm. Vous devez lire Alphabet Squadron pour vraiment, du moins, apprécier tout ce qui se trouve dans ce livre. Mm-hmm.
Ben écoute, je vais de mon côté, je vais répéter ou mettre l'accent aussi sur certaines affaires que tu as nommées. Déjà, c'est un deuxième tome d'une série prévue à la base comme une trilogie. Comme tu dis, ça fait du bien parce que l'air de rien, du point de vue littérature, on n'a pas eu ben de ça. On a eu la trilogie Aftermath de Chuck Wendig qui, bon, en a quand même déçu plusieurs. Et qui n'était pas non plus bâti, je sais pas, tu sais, un peu comme tu dis, là c'est vraiment comme une série télé que ça finit, tu veux tout de suite partir l'autre.
Ouais.
Sinon, c'est ça, on a eu, bon, il y a des personnages qui reviennent d'un livre à l'autre, mais tu sais, par exemple, là, plus récemment, on a l'espionne Vimoradi, là, tu sais, qui a déjà deux livres, qui est apparemment qui va revenir dans un troisième. Mais tu sais, c'était pas nécessairement prévu comme ça, je veux dire, Galaxy's Edge, Black Spire, et pas. T'sais, c'est une suite, mais je veux dire, c'est pas la suite du livre Phasma. T'sais. C'est deux histoires différentes, mais là, avec la même personnage principal. Mais bon, c'est ça. Moi, effectivement, là, le fait que c'est une vraie suite, puis que tu vois que ça faisait partie d'un plan en trois, là, ça fait partie des choses que j'avais dit aussi il y a un an sur le premier volume, que ça paraissait que c'était une introduction. T'sais, le livre en lui-même, de façon autonome, il y avait une méga introduction dans ce livre-là. T'sais, la présentation des personnages, tout ça, ça durait une grosse partie du livre. Moi, j'avais bien aimé quand même, mais je le mentionnais, t'sais, je disais, faut que vous le preniez comme le premier tome d'une trilogie, pas quelque chose que vous lisez pas les deux autres après. Mais bref, c'est ça, je trouve que c'est le transfert vers celui-là, là, c'était juste parfait. Là, donc, on est tout de suite après les événements et il y a énormément de références. Parlant de références, il y a énormément de références aussi à la trilogie Aftermath, dans le fond, et autant des références données par le côté de la République que par le côté de l'Empire. Donc, dans les deux cas, c'est vraiment, là, comme tu dis, il faut avoir lu le premier, mais avoir lu la trilogie Riposte, je trouve que ça apporte beaucoup aussi à l'histoire de ce livre-là. Même chose, bon là, évidemment, c'est de la semi-spéculation, mais les liens clairs avec l'histoire du jeu à venir, là, Squadron, écoute, c'est dur d'être plus évident que ça, là, les liens. Je veux dire, c'est vraiment, là, on va en parler plus en section spoilers, là, mais je pense que quand on va avoir joué au jeu, ça aussi, ça va venir apporter beaucoup de petits easter eggs et compagnie là, à la lecture de Shadowfall. J'ai bien aimé l'idée de la Nouvelle République, là. Les troupes de la Nouvelle République qui redeviennent des rebelles, qui redeviennent un peu la rébellion. J'ai pas détesté, parce que là, on était dans une situation hein, où l'Empire se fait démolir, puis tu sais, la Nouvelle République prend de l'ampleur, prend des territoires, etc. Et ouais. Dans ce livre-là, la situation, pas nécessairement qu'elle se retourne, mais en tout cas, ça force les soldats de la République à revenir à des tactiques, puis à des habitudes qu'ils avaient plus. Donc ça, j'ai bien aimé. Sinon, t'as parlé de la... comment c'était décrit les personnages, tout ça, mais dans le fond, c'est la maîtrise d'Alexander Fried pour les histoires de soldats là, que j'adore. Ouais. Tu sais, la psychologie des personnages, tout ça, le point de vue, les situations qu'ils vivent, je trouve que c'est vraiment un gars... je sais pas ce qu'il a écrit en dehors de Star Wars, mais c'est un gars qui maîtrise parfaitement les romans de guerre. Et dans le fond, son premier, là, Battlefront, voyons, Twilight Company, c'était ça, là, c'était, je veux dire, c'était la série Frères d'armes, là, Band of Brothers, mais version Star Wars. Fait que ça, j'ai vraiment adoré. Sinon, les personnages, j'ai trouvé aussi que c'était quand même très fidèle au premier. Même s'il y a certaines de leurs réactions, des fois, qu'on se dit, ouais, c'est poussé un peu tout ça, mais ça reste fidèle. Ça reste fidèle au personnage de la première... du premier volume. Donc ça, c'est une des choses qui peut être problématique des fois, là, d'un chapitre à l'autre. Hein, on mentionnera pas les épisodes 7, 8, 9 de la saga Skywalker. Mais c'est ça, cette fois-ci, c'est quand même, tu vois que c'est le même auteur et que c'était tout prévu. Ouais.
C'est un peu plus cohérent.
Un peu plus cohérent, effectivement. L'évolution aussi est quand même assez grande des personnages dans ce volume-là. Puis le titre aussi, qui est très bien porté, qui s'applique, tu sais, Shadowfall, on pourrait se dire, ok, c'est le Shadowwing qui va chuter, on va dire. Mm-hmm. Mais non, ça s'applique, je trouve, à l'ensemble des personnages de tous les camps.
Oui, c'est vrai.
Vraiment, là, il y a un côté analogie là-dedans là, que vous comprendrez si vous le lisez. Et l'évolution des personnages individuellement, mais de l'équipe aussi. Tu sais, ça s'appelle quand même l'escadron alphabet. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'équipe évolue dans ce livre-là. La situation au début du 3 sera pas du tout la même qu'au début du 2. Donc, là aussi, je fais bien attention de ne pas tomber trop dans les spoilers. Retour aussi de personnages d'autres romans que j'avais beaucoup aimé et dont j'avais vraiment, à la lecture de ça, je voulais tout de suite voir une suite. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver ces personnages-là et ça a vraiment été une surprise. Je m'y attendais pas du tout. Là. C'est un moment donné avec les mentions, tout ça, j'ai fait crime. C'est les mêmes personnages que dans tel autre livre sorti il y a plusieurs années. Donc, ça, c'est toujours très agréable. Ensuite, je mentionnerai peut-être l'ambiance qui est, tu l'as dit un peu, là, mais qui est extrêmement différente du premier Alphabet Squadron. Cette fois-ci, c'est sombre, c'est dramatique. On sent un danger mortel pour chaque personnage. On sait pas qui va passer au travers. Là. C'est comme écouter Trône de Fer, là, Game of Thrones.
Tu sais
pas si le personnage principal va pas crever avant la fin. Bref, on redoute vraiment la fin de chacun et on n'a pas tant d'indications. Là. C'est vraiment là, quelqu'un qui me dirait que ce livre-là était prévisible. Faudrait qu'il m'explique là, où est-ce qu'il avait prévu tout ça. Je l'ai mentionné, c'est un roman de guerre, mais c'est justement un roman, c'est plus un roman de guerre que le premier. C'est vraiment, c'est sale, c'est des situations critiques, c'est une question de survie pour les personnages, et c'est vraiment au niveau personnel des personnages, donc on est loin des grands enjeux politiques. Donc évidemment, ceux qui voulaient des détails à n'en plus finir sur la situation de la galaxie et la géopolitique, oubliez ça, là. On n'est pas là-dedans du tout. Ceux qui détestent à l'inverse l'aspect politique vont être contents. Mais c'est ça, on est dans des histoires très très personnelles. La précision des combats...
J'allais juste dire que ça fait changement des livres qu'on... Les derniers livres où c'est tout l'aspect politique de la galaxie et tout, là, soit de l'Empire ou de la Nouvelle République ou du premier ordre, donc ça fait changement. Là.
Ben c'est ça, on a eu quelques-uns effectivement. Là, fait que moi, étant politologue à la base de formation, j'aime beaucoup l'aspect politique dans Star Wars, mais je sais qu'il y en a qui justement trouvent qu'il y en a trop. Fait que ça, mais ça donne des très bonnes histoires justement du point de vue des soldats. La précision aussi des combats, le style de l'auteur, je l'ai mentionné tantôt, mais tu sais, le manier, ça fesse, mais comme faux, là. C'est vraiment de la grosse bataille. Moi, ça m'a beaucoup rappelé aussi son premier livre. Et, bon, tu l'as dit, une fin quand même surprenante. Puis, tu sais, malgré le fait qu'on sait qu'il y a un tome 3 qui va venir, donc on pourrait supposer, OK, vu qu'il y a un tome 3, bon, les personnages vont survivre, puis on va les revoir. Mais, je vous dis, cette fin-là, on peut la voir venir vraiment à la toute fin, peut-être, là. Mais pas plusieurs chapitres d'avance, là. C'est vraiment là, surprenant. Et ça, bon, ben, je pense que personne va s'en plaindre. habituellement, les gens aiment ce genre de situation-là, de surprise. Mm-hmm. S'il faut trouver du négatif, moi, je mentionnerais, ben, c'est un peu la même chose que toi, quelques petites longueurs. Encore là, je dirais que c'est selon les intérêts de chacun. Moi aussi, je m'étais noté un peu la même séquence que toi. Moi, c'est en audio, là, puis c'est ça, tout l'arc narratif de ces personnages-là à ce moment-là, on va en parler en partie spoilers, mais il y a tout un aspect que, bon, moi, j'ai trouvé que ça décrochait un petit peu du reste du livre. Ouais. Tu sais, c'est vraiment des personnages qui ont leur propre arc, là, à ce moment-là, donc, mais il y en a qui vont aimer parce qu'ils trippent plus sur ce genre de situation-là. Mm-hmm. Bref, si on y allait avec les notes... Jeff, tu y mettrais combien à ce deuxième volume?
Alors, moi, j'y mettrais un... Je sais, tu vas être peut-être surpris, mais 19 sur 20. Eh oui, j'ai vraiment aimé. C'est honnêtement un des meilleurs livres que j'ai lus.
Ben, c'est ça, j'allais dire. Des 19 sur 20, t'as pas dû en donner beaucoup, l'air de
rien. Non, je pense que le dernier que j'avais donné, c'était Tron...
Le premier?
Même pas le premier, je pense que c'était le dernier.
Tron, ok, Treason. Ouais, Treason.
Mais ouais, je pense que c'était le seul que j'avais donné 19. Donc ouais, non, j'ai écoute, je l'ai peut-être lu au bon moment, j'étais dans le bon mood pour lire ce livre là. J'ai vraiment aimé, j'ai vraiment vraiment aimé. J'ai vraiment hâte de voir la suite.
Ben, c'est excellent. Écoute, cette fois-ci, on va être plus près. Moi, je suis resté avec ma note du premier. Je me suis demandé si je l'appréciais plus que le premier ou moins. C'est tellement différent quand même si c'est les mêmes personnages, le même auteur, tout ça. C'est tellement des situations différentes, on va dire, où, que j'ai de la misère à dire lequel des deux j'ai préféré. Donc, je maintiens un 18 sur 20 pour ce deuxième volume. On est quand même proche, là, Jeff.
Ouais, ouais. Plus que d'habitude.
Ouais, c'est ça. C'est peut-être une indication pour ceux qui ne l'auraient pas lu, là, sauter dessus. Mais comme Jeff disait, faut quand même avoir lu le premier avant.
Ouais.
Parce que vous allez être perdu quand même, sans le problème.
Ouais, ouais, ouais.
Ben écoute, à ce moment-là, Jeff, on va pouvoir parler spoilers, donc avertissement. Ça aussi, Jeff, on pourrait se prévoir une alarme impériale, là, tu sais, ou quelque chose comme ça, là, qui fait bip 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 quand on tombe en. Ouais, spoilers.
On a un pour quand on fait l'édition audio, mais pas pour
ouais, c'est ça.
Live. Il ouais, faut en trouver un pour le live.
Bref, on va commencer quand même avec un résumé spoilers, hein, parce que quand même plusieurs de nos auditeurs et moi-même, quand c'est des œuvres que j'ai pas lues ou avant de joindre l'équipe, aiment avoir justement la chance d'avoir un résumé de l'histoire sans avoir à lire le livre, ou par exemple quand on sait qu'il peut avoir quelques années. Bon, des fois c'est très rapide, là, mais des fois pour la traduction ça peut être long. Donc on va vous faire un résumé spoilers. Par contre, je vous préviens, je vous résume 15 heures d'audiobook en quelques minutes. Donc j'ai essayé de faire à la fois court et complet, là, mais vous comprenez que je ne vais pas vous faire un résumé de 15 heures. Donc, côté Nouvelle République, l'escadron Alphabet est maintenant reconnu et apprécié à la fois par l'organisation, mais aussi par les autres soldats qui les considèrent comme leurs sauveurs, hein, après le cataclysme évité là, du premier livre sur Pandemnei, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Le groupe de travail de Cairn Adam, des services de renseignement, a grandi en ressources, en budget, en personnel. Il y a maintenant plusieurs analystes sous ses ordres, etc. Donc, ils poursuivent leur track de la Shadow Wing et sont toujours basés à bord du Lodestar, donc le croiseur là, de classe Acclamator de Hera Syndulla, la générale Hera Syndulla.
Mm-hmm.
Celle-ci quitte toutefois relativement tôt dans le récit et avec son escadron. Ben, pas son escadron, mais l'escadron Vanguard, pour les événements qu'on va vivre dans le jeu Squadrons, donc cet automne. On pourrait résumer en disant que c'est une attaque impériale d'un chantier naval d'importance pour la Nouvelle République.
Oui, oui.
Et donc, c'est ça. Le résultat, c'est qu'Hera sera très peu présente dans ce tome, contrairement au premier, où est-ce qu'elle avait quand même un rôle étonnamment là, important.
Mm-hmm.
Se trouve également dans le Lodestar, la redoutable 61e compagnie d'infanterie, la Twilight Company. Donc, ceux qui lisent tout ce qui sort de Star Wars vont se souvenir, et je suis en train de mettre les images dans le chat, que c'était la compagnie qu'on suivait tout au long du livre, du roman Battlefront Twilight Company, la 61e. Donc, dans le fond, c'est, si je me trompe pas, j'ai détecté au moins trois personnages qui reviennent. Dans le fond, les personnages principaux, il faut dire, un peu comme je disais, c'était un roman qui suivait beaucoup de personnages, là. C'était tous des soldats d'infanterie, fait qu'on s'y perdait facilement. Mais selon les descriptions puis tout ça, j'en ai compris que c'était les mêmes personnages. On a même droit à quand même... ah ben ça, j'en parlerai peut-être en partie un peu plus critique. Mais c'est ça. C'est donc le retour de l'essentiel des personnages créés justement par Alexander Freed dans son premier roman. Côté impérial, ben dans le fond, on a le major déserteur, Soran Keys, hein, qu'on avait suivi dans le premier livre, dans des espèces de petits apartés qui avaient là, des chapitres, et on le suivait sous un nom d'emprunt. De mémoire, je pense qu'on l'appelait Devon ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, là, dans le fond, il est de retour, et on l'avait croisé aussi dans les comics TIE Fighter, si je ne me trompe pas.
Ouais, ouais.
Mais il est de retour avec la Shadow Wing, qui, elle, est meurtrie et sans commandement après le désastre là, du premier volume. Mm-hmm. Par contre, même s'il serait théoriquement le plus gradé de l'escadron, ben, tu sais, c'est un déserteur. Donc, théoriquement, l'Empire, il l'aurait exécuté sur le champ, mais c'est ça, la situation de l'escadron fait que. Il lui propose plutôt de jouer un rôle de consultant, là, tout d'abord, genre de consultant externe, comme les gouvernements aiment bien engager. Bref, les impériaux sont désespérés. Il y a même un culte de plus en plus gros qui est voué là, au fameux droïde messager rouge là, de l'Empereur, qui est toujours présent et silencieux. Puis ça se développe quand même rapidement chez les troupes. Ceux qui se demandent de quoi je parle, ben allez écouter notre Star Wars 101 sur l'opération Cendre. Mm-hmm. Hein, c'est le même droïde qu'on voyait aussi dans le jeu, le deuxième jeu Battlefront.
Oui, exact.
Et bon, c'est ça, par ses conseils et compétences, ben Soran Keys finira néanmoins là, par être accepté par les rares officiers impériaux qui restent. Et il le nomme colonel, donc à la tête de la Shadow Wing. Considérant leur situation qui est quand même chaotique, là, sans contact avec les restants de l'Empire, si on peut dire, Keys décide d'offrir à l'escadron la seule mission, la seule chose pouvant les garder soudés, leur éviter de tous sombrer dans la folie, une opération ultime de revanche contre le groupe de combat qui les a décimés, donc le groupe de Hera Syndulla. Pendant ce temps-là, du côté du Lodestar, qui se trouve dans le noyau profond, dans un système appelé Cerberon. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Mais bref, c'est un système gravitant autour d'un trou noir. Caerne Adan part avec Kairos là, investiguer une piste de la Shadow Wing, dans le fond, sur des renseignements là, qu'il y a eu par, si je me souviens bien, c'est des Pikes. Donc, on en comprend qu'il y a encore des Pikes après la trilogie originale, à ce moment-là. Et c'est ça, mais ils tombent dans une espèce d'embuscade. Bref, ils sont rapatriés de justesse, pratiquement morts. Et ils sont conduits à l'infirmerie du Lodestar, mais la semi-mort de Adam provoque la diffusion d'un message aux membres de l'escadron Alphabet. Puis c'est un message qui était prévu pour être post-mortem et qui dévoile les secrets de leur chef, la lieutenant Erika Quell. Donc les secrets qu'on découvre à la fin du premier volume. Donc à savoir qu'elle a menti sur ses responsabilités et les circonstances de sa désertion. Autrement dit, qu'elle a participé activement au génocide de l'opération Cendre, des crimes de guerre, etc. Fait que, bref, que c'est pas une gentille. Le résultat, c'est que les trois autres membres qui restent, donc Nat Tencent, Will Lark et Chas Nashadik, La première partie, dans le fond, Nat, il feint la surprise parce que lui, il était déjà au courant, fait qu'il fait semblant d'être scandalisé. Mais c'est Chas qui le prend vraiment le plus mal. C'est vraiment comme une trahison personnelle. Là. C'est assez intense. Et tout ça se passe au moment où l'Empire, donc, et la Shadow Wing débarquent dans le système et passent à l'attaque. Donc, nos trois pilotes interdisent à Quell de les suivre et ils partent au combat à bord chacun, là, respectivement, le Y-Wing, le A-Wing et le B-Wing. Mm-hmm. De façon désordonnée, bon, c'est ça, ils ont comme plus de chef. Et aux côtés des quelques autres pilotes toujours à bord du Lodestar, parce qu'on le rappelle, l'escadron Vanguard a quitté. Ils s'aperçoivent rapidement qu'il s'agit de la Shadow Wing et ce qui s'annonçait au départ comme une bataille facile pour la République devient vite un désastre. Le Lodestar est durement touché et même chose pour le croiseur impérial. À l'intérieur du Lodestar, bon, ben, il y a encore Eric Ockwell qui récupère Cairn Adan et encore très mal en point. Là, et son droïde ITO, IT0, je sais plus trop, la boule flottante, là, ancien droïde de torture. Et ensemble, ils évacuent le Lodestar à bord d'un U-Wing, si je me trompe pas. Mm-hmm. La bataille est particulièrement chaotique. c'est désorganisé. Au final, la majorité des forces en présence, donc dans le fond, le Lodestar, le croiseur impérial, Nat et Will, puis toute la Shadow Wing, dans le fond, ils vont se cracher sur une planète proche qui s'appelle Troit, en français, ça va donner quoi? Une planète industrielle du système. Et Chas, de son côté, elle va plutôt se retrouver sur une autre planète culte, qu'on peut dire, dans le fond, un peu dans le genre de Jeddah, une planète là, qui attire plein de pèlerins et tout ça, appelée Katadra. Et de leur côté, Quell et Adan, et le droïde ITO, eux vont se retrouver sur une lune inhabitée de proche aussi, là, à proximité, dans ce système-là. Donc, sur Troit, tout d'abord. Et comme je disais tantôt, on suit à ce moment-là un peu comme trois arcs narratifs différents. Donc sur Troit, normalement, c'est un endroit qui est déjà contrôlé par la Nouvelle République, mais c'est ça, l'écrasement de tout ce beau monde va foutre le bordel et donner un second souffle à la guérilla là, des ex-impériaux locaux. Donc autant côté Nouvelle République qu'Empire, c'est l'hécatombe. Écoutez, les survivants tentent de se regrouper, de s'organiser, d'identifier les objectifs à atteindre. Ils reçoivent un peu d'aide des locaux. Dans le fond, rapidement, Will Lark se retrouve à la tête de ce qui reste de pilotes puis de chasseurs. Nat Tensen, lui, refusant là, d'endosser cette responsabilité-là qu'il avait déjà eue par le passé, on se rappelle. Et bon, on sait pas trop ce qui arrive non plus. On sait pas si Kairos a survécu, parce qu'il était à bord du Lodestar encore. Donc, et sur l'autre planète, du côté de Katadra, Chas, elle, se retrouve en situation périlleuse, dans le fond, et pour survivre, elle va rejoindre anonymement une confrérie religieuse appelée Children of the Empty Sun, donc qu'on pourrait traduire par les enfants du soleil vide. Petit à petit, elle va jouer le jeu, là, se faisant passer pour une vraie croyante, là, convaincue. Et de l'autre côté, enfin, là, du côté de la lune, c'est une lune inhabitée. La situation est critique là, pour Quell et Adan. Ce dernier est mourant. Le droïde ITO est magané lui aussi, puis il leur apprend en plus que la Lune est en fait sur une trajectoire qui va l'amener tout droit vers le trou noir, relativement bientôt. Donc, tu sais, ça va très bien. Quand on vous parlait de situation critique, dramatique, là, vous voyez un peu le genre. Il découvre tout de même là, sur la Lune qu'il se trouve pas si loin d'une ancienne structure abandonnée. Donc, ils vont alors se taper un périple jusque-là pour découvrir, une fois rendu, que la structure est en réalité un ancien temple Sith, inaccessible, là, verrouillé, si on peut dire, là, mais réagissant avec le mental de Eric Ockwell, lui provoquant des visions là, cauchemardesques, là, atroces. Et pour revenir sur Troit, les troupes restantes de la Nouvelle République redeviennent des rebelles petit à petit, avec des tactiques de guérilla, comme je mentionnais tantôt. Tout comme les impériaux aussi, là, qui font pareil, ils font avec ce qu'ils ont. Au final, les deux groupes se retrouvent à converger tous les deux vers une ancienne gigamine abandonnée. Et les rebelles, parce que ce sera dans le fond une position défensive parfaite, qui veulent aller dans cette mine-là. Et les impériaux, parce qu'ils apprennent qu'il se trouve un ancien vaisseau de minage, C'est-tu un verbe, ça? Ça se dit-tu, bref?
Ouais, c'est... Ouais.
Moi, ça m'a rappelé... on a déjà vu ça dans un comics, entre autres, là, la reine de Shutoran qui se pointait avec un méga vaisseau spatial qui, en fait, est une espèce d'industrie là, flottante, bref. Ils se rendent compte que cet ancien vaisseau-là, s'il était réparé, il pourrait lui permettre de s'enfuir de la planète. Donc, sur Katadra, Chassel découvre que le culte détient une pilote impériale du Shadowwing, qui s'est écrasée, elle aussi, sur la planète. Mais elle a les jambes brisées, si je ne me trompe pas, donc elle ne représente pas nécessairement une menace immédiate. Par contre, elle lui apprend que le culte détient plein de vaisseaux dans un hangar. Donc, ensemble, ils vont faire équipe pour accéder ultimement là, à ces vaisseaux. L'impérial va s'enfuir dans une navette et chasse dans son propre B-Wing qui l'attendait là. Et du côté de, ben, dans le fond, sur la Lune, Adan et Quell comprennent que les visions que Quell a, c'est la clé pour accéder à l'intérieur du temple Sith. Elle fait donc un grand nombre de tentatives infructueuses. Quand on vous parlait de certaines longueurs tantôt, là, c'est de cet arc-là qu'on parlait. Là, parce qu'il y a plusieurs tentatives, plusieurs visions de raconter, etc. Et petit à petit, elle fait également la réflexion que son avenir dans la Nouvelle République est compromis, voire complètement terminé là, à cause des révélations sur son passé. Et Adan finit par mourir définitivement de ses blessures. Bon, comme JF a dit tantôt...
Avoir souffert pendant je sais pas trop combien de pages.
Ouais, c'est ça, ça se fait ça se fait vraiment petit à petit, mais ça reste que c'est surprenant parce que t'sais, le premier livre commençait avec lui, c'était le personnage principal de l'introduction du premier livre et là on vient de le perdre. Donc moi j'ai quand même été surpris. Bref, Adan, c'est ça, meurt définitivement. Et tu sais, quand ça va bien, si ça va bien, la mémoire de Iteo rend finalement l'âme. Hein. Je vous ai dit tantôt qu'il était bien amoché lui aussi. Et le droïde n'est plus l'infirmier psychologue là, de Cairn Adan, mais il redevient un droïde de torture, classique, et il identifie Quell comme une ennemie à abattre. Donc, elle doit donc le détruire pour survivre. Et puis, enfin, une fois tout ça fait, qu'elle est complètement désespérée, prête à mourir, tout ça... parce qu'on se rappelle, hein, la Lune se dirige vers un trou noir. Mm. Bon, le temple décide de s'ouvrir à elle. Et où elle y découvre, dans le fond, un vieux vaisseau, un très vieux vaisseau, mais fonctionnel et à la pointe d'anciennes technologies. Si on revient sur Troyte, dans la mine, les rebelles sont là les premiers, mais ils ne réalisent l'objectif des impériaux jusqu'à la dernière minute. Donc, eux, c'est ça, ils ont vraiment une position défensive, on va dire. Mais c'est ça, les impériaux, eux, s'en foutent un peu là, de toutes les tuer. Ce qu'ils veulent, c'est s'enfuir. Donc, on a droit là, à des combats vraiment très intenses, on l'a dit tantôt, à la fois terrestre et dans les airs. Comme là, j'ai dit, la fameuse 61e compagnie d'infanterie du roman Battlefront. Et je dis dans les airs aussi parce qu'il faut vous figurer le genre de mine. Là. C'est pas rien qu'à la hauteur d'homme, là. C'est un méga, méga trou, là.
Ouais.
Donc, c'est ça, des combats quand même assez épiques. Là, ceux qui aiment justement quand c'est bien décrit et qu'on comprend ce qui se passe, je pense qu'ils vont aimer ça.
Mm-hmm.
Et la situation est de pire en pire pour les rebelles. Donc, ils s'en vont clairement vers la mort. Mais contre toute attente, Chass débarque avec l'escadron Vanguard et Hera Syndulla, dans le fond, qui se pointe dans des frégates. Et dans le fond, c'est Chass là, qui est allé les chercher. Après s'être enfui dans son B-Wing. Et ils mettent en pièces les impériaux restants, sauf le fameux vaisseau là, minier réparé qui a réussi à s'enfuir in extremis. Donc, avec le colonel Keyes et un restant de Shadowwing avec lui. Et depuis l'espace, Erika Quell observe tout ça en mode furtif, hein, parce que le fameux vaisseau Sith qu'elle a découvert a un peu la même technologie que celui de Darth Maul dans Battlefront 2, donc il peut se mettre en mode invisible, même pour les senseurs. Et elle continue sa réflexion en se demandant, dans le fond, comment elle sera traitée si elle rejoint ses camarades là, de la Nouvelle République, ou si elle devrait pas plutôt en profiter pour disparaître puis se refaire une vie là, quelque part dans la galaxie. Et, comme épilogue, on est chez les impériaux. Peu de temps après, le colonel Saren Keyes il reconstruit petit à petit la Shadowwing. Il a rejoint la flotte impériale, ou en tout cas, il est sur en communication, puis dans le fond, ils vont vers un rendez-vous avec la flotte de la désormais grande amiral Sloan, hein, qu'on a suivi dans la trilogie Riposte. Et il parle de stratégie avec elle, etc. Et le droïde rouge de l'Empereur a par ailleurs recommencé à parler en lui donnant des directives. Donc, lui qui était muet depuis le tout début de l'opération Cendre. Et puis, il se rend dans un hangar où son ancienne lieutenant, Iri Cockwell, a été capturée, tirée, amenée. On comprend qu'elle est venue par elle-même. Et celle-ci lui adresse un franc, si on traduit, on peut dire un lieutenant Quell au rapport. Donc, comme tout bon pilote impérial là, de retour de mission.
Exact.
Et le livre se termine comme ça. Donc, quand on parlait de punch tantôt, c'est ça. Le personnage principal qui fait défection. Donc, JF, maintenant que tu peux mentionner les spoilers, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça?
Bon, ben, comme je l'ai mentionné, moi, ce que j'ai retenu le plus, comme j'ai mentionné tantôt, c'est la fin. C'est de voir que Iri Cockwell était toujours du côté de l'Empire. Puis comme je dis, c'est un punch qu'on tu peux pas voir venir de loin, mais que en tout cas on aurait pu voir venir à la fin du livre, tu sais, comme un peu avant. Mais que bon, que moi j'ai pas vu venir, fait que ça a fait là, j'étais comme wow, ok. C'est ce qui a fait que j'ai vraiment aimé de la façon que ça finit, puis que j'ai vraiment hâte de voir comment la trilogie va se conclure. Parce que, écoute, tout le monde du côté des rebelles, ben tout le monde, là je parle de l'escadron, l'escadron Alphabet, mais aussi de Eros et Doula et tout ça, qui, tu sais, il y avait vraiment confiance en Quell et tout. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment ils vont réagir face à ça et comment tout ça va se terminer. Mais là, on peut dire que l'avantage est du côté de l'Empire, je crois.
Ouais, là, côté escadron, ouais. Ça commence à être limité. Là.
Ouais, c'est
Mais par contre, il faut mentionner, hein, même si c'est un résumé rapide que j'ai fait, il n'y a pas plus de détails que ça. Hein. C'est vraiment là, Iri Cockwell est là, et quand il arrive, elle lui dit lieutenant Quell au rapport. Donc, et ça finit comme ça. Donc, ça reste, il y a une certaine ambiguïté à ce punch-là, dans le sens où est-ce qu'elle refait défection? Est-ce qu'elle était en mission tout ce temps-là? Est-ce que, ce qui m'étonnerait, ou est-ce qu'elle elle fait ça justement pour la Nouvelle République? Elle se, dans le fond, une espèce d'opération de contre-espionnage, donc elle essaie de se réinfiltrer chez la Shadow Wing. Moi, je laisse quand même cette option-là là, en suspens. Parce que oui, ça se peut qu'elle ait fini par faire le même move que Soran Keys, qui lui aussi a déserté pour revenir. Mais c'est pas exclu non plus qu'elle s'est dit, ben, la seule façon de revenir à la Nouvelle République, c'est de faire ce genre de manœuvre-là.
Ouais, mais... Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça serait trop facile, ça serait trop... Ben, pas facile, mais ça serait vraiment un peu... Je sais pas.
Décevant pour toi?
Ouais, décevant, je pense. Ça serait décevant parce que on comme, tu sais, on... En tout cas, la façon que ça finit, tu t'attends à ce que, ok, ben, tu sais, moi, je pense que, tu sais, comme tu dis, c'est peut-être impossible qu'elle travaillait, tu sais, que c'était comme son travail de l'Empire depuis le début, tu sais, qu'elle était sous l'Empire, mais c'est pas impossible, donc ça se peut que c'était sa mission de faire partie de l'Empire.
La République,
je sais pas. C'est, en tout cas, j'espère que c'est ça, parce que sinon. Sinon, je vais changer ma note après ça. Non, c'est pas vrai.
Non, mais honnêtement, je suis comme toi, j'ai pas la moindre idée de vers quoi ça va s'en aller. C'est vraiment un livre, là, que tu sais qu'il y a un épisode qui arrive, là, pis, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Puis tu sais, l'escadron, c'était 5 personnes plus Kaer Nadan. Là, il en reste 3-4. Donc, et ils ont perdu le personnage principal de la trilogie. Donc...
Ouais, en plus.
Bref, ouais, c'est ça. Puis même si Will Lark c'est quand même, a quand même fait la démonstration de son talent comme chef d'escadrille, Bon, ça reste qu'il n'y a pas l'expérience là, puis le... qu'une Irikoku elle avait. Donc, en tout cas, j'ai bien hâte de voir vers quoi ça va s'en aller, mais jusqu'à maintenant, je trouve que pour nous surprendre, Alexander Freed est quand même très efficace.
Ouais.
Sinon, d'autres points qui t'ont marqué?
Non, pas spécifiquement. Le reste, je l'ai mentionné dans ma critique. Moi, c'était pour côté spoiler, c'était vraiment celui-là qui m'a frappé. Sinon, je veux dire, il n'y a pas grand-chose d'autre qui est comme spoilers, là, qui gâche l'histoire, là, qui m'a vraiment sauté aux yeux. Là. C'est surtout ça, là. Toi, je sais pas si t'en avais cool. qui t'ont vraiment sorti, frappé.
Non, ben dans le fond, comme j'ai mentionné, moi, ma grosse surprise, ben évidemment, le punch, c'est toute une surprise, là, mais avant ça, c'était le retour de la 61e compagnie d'infanterie.
Ouais.
Dans le fond, on retrouve le capitaine là, Azram Namir, le sergent Carver et Brand, qui n'avait pas vraiment de rang, qu'on avait dans le livre précédent. Fait que dans un sens, je recommanderais aussi la lecture de Battlefront Twilight Company, qui est disponible en français en passant, là, même s'ils ont gardé le titre identique à l'anglais. Sinon, ben c'est ça, les combats terrestres, les histoires de guerre aussi. Hein. Donc, dans le fond, dans ce livre-là, on a des soldats qui se racontent des histoires de guerre, tu sais, entre les pilotes de l'escadron puis ces soldats-là. Et ils nous parlent de batailles, ils racontent des batailles puis des événements qu'on a eus dans l'autre livre. Donc, c'est quand même, dont la fameuse bataille finale sur Sulust, qui était quand même là, mémorable là, et qui faisait écho au jeu aussi, là. Qui était un peu une bataille désespérée là, pour les rebelles à ce moment-là.
Ouais.
Mais c'est ça. Donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Le personnage de Chass aussi, qui est beaucoup développé, comme tu as dit tantôt, que j'ai bien aimé, même si des fois, on comprend pas trop son obsession là, envers Quell, là, envers la trahison de Quell. Mais ça fit avec le personnage, qui est un personnage impulsif, généralement il réfléchit là, c'est quand même jeune puis qui fait des conneries là. Et très revanchard. C'est ça, et c'est un personnage qui est c'est mentionné beaucoup dans le premier puis un peu dans le deuxième aussi. Elle est très fan, si on peut dire, ou en tout cas son idole, c'est Jyn Erso, de Rogue One. Et c'est ça, là-dedans, par exemple, quand elle va s'infiltrer, quand elle va se faire passer pour quelqu'un d'autre là, dans la confrérie religieuse, ben, elle va prendre un nom qui est pratiquement le même que Jyn Erso lorsqu'elle est justement incognito, là, donc au début de Rogue One, mais dans des livres aussi, là, vous voyez tout cet aspect-là, mais au début de Rogue One, Jyn Erso est en prison, fait que quand ils viennent la libérer, ils disent Lyanna Alik. Ouais. Donc c'est ça, c'est pratiquement le même nom là, qu'elle va prendre dans ce livre-là. Fait que on se rappelle aussi que c'est Alexander Freed qui a écrit la novélisation de Rogue One.
C'est vrai.
Mais c'est ça, donc plein de détails comme ça. J'ai pas trippé beaucoup sur toute l'histoire du temple Sith puis des visions. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté réchauffé un peu. En même temps, je comprends que ça reste très logique, là, mais c'est ça. Ouais. C'est moins ma tasse de thé en partant tout l'aspect mythologie Sith. Là. Donc, mais c'est. Puis il y a l'aspect, c'est ça, je trouve que ça s'étirait un petit peu, là, tout leur arc narratif sur cette lune-là. Sinon, le livre a une ambiance, un peu isolée. Hein? Comme on l'a dit, on suit des individus dans des situations de survie. Donc, c'est ça, on est zéro au courant de détails, mettons, comment se passent les conquêtes de la Nouvelle République, ou à peine là, des mini-détails. Fait que c'est sûr que ça, cet aspect-là... c'est le genre de choses que j'aurais aimé avoir un peu plus. Ouais. Mais je comprends que là, à mon avis, Freed, c'est ça, voulait faire vraiment une ambiance d'action, là, tu sais, puis qu'on s'éternise pas comme si c'était un livre de référence. Fait que c'est une question aussi là, de c'était quoi son objectif. Fait que c'est ce que je m'étais noté pour ce livre-là. Écoute, évidemment, j'ai mentionné une trollée de spoilers là, dans le résumé.
Ouais, c'est ça.
Que j'ai quand même trouvé bien intéressant. Puis, tu sais, je l'ai mentionné aussi en termes de durée. Alexander Freed fait vraiment en ce moment les livres les plus longs de la littérature Star Wars, du canon. Il y a Timothy Zahn aussi là, qui est quand même pas pire de ce côté-là, mais c'est ça, j'ai comparé les nombres de pages et tout ça, et c'est l'Escadron Alphabet, le premier, qui pour l'instant va avoir le record du nombre de pages ou de la durée. Bon, évidemment, si vous prenez des young adults ou des affaires que c'est écrit plus gros, là, genre Étoile perdue, ça fait plus de pages. Là. Mais c'est ça, en termes de contenu, Alexander Freed prend le temps de mettre le contenu et de poser les événements.
Mm-hmm.
Donc c'est ce qui fait aussi qu'on comprend ce qui se passe dans les combats. Même si l'action se déroule vite, on comprend ce qui se passe, alors que d'autres fois on lit des livres et puis tu sais, c'est pas contre d'autres. Je pense par exemple au dernier Claudia Gray, là, c'était Maître et apprenti, que des fois j'étais complètement perdu dans ce qui arrivait, les combats là, d'Obi-Wan puis Qui-Gon. Fait que là cette fois-ci vraiment et pour quelqu'un comme moi, que ce qu'il aime justement dans Star Wars, c'est pas nécessairement les grands héros, puis les Jedi, puis les Sith, puis tout ça, mais les soldats ordinaires, ben moi c'est sûr que ça fait juste me combler là, des livres comme ça. Fait que je pense que ça méritait la note quasi parfaite qu'on lui a donnée.
Ouais, excellent livre.
Donc, écoutez, c'est sur ces critiques, je crois, très très bonnes, qu'on pourrait qualifier de très très bonnes, qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. J'espère qu'on vous a donné envie de lire ce livre-là. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires ou des réactions sur les sujets qu'on vient de discuter, là, ben, contactez-nous à l'adresse studio@starwarsendirect.com ou laissez votre message sur nos réseaux sociaux. Hein, c'est souvent pas mal plus direct sur Facebook, Twitter, Instagram, sur YouTube, sur Discord, etc., 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 etc. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux hein, pour faire croître la communauté. On vous rappelle que pour rejoindre notre communauté de fans sur Discord et, dans le fond, assister et participer à nos enregistrements en live, on vous invite à rejoindre notre serveur Discord. Et puis, pour montrer vos couleurs, à vous diriger vers la boutique de Star Wars en direct. Donc, je suis allé sur notre site et trouver l'onglet « Boutique ». Côté prochaines émissions à venir, GF, qu'est-ce qu'il y a au programme?
Donc, deux Star Wars littérature, Star Wars en direct littérature. Un qui sera dédié à la BD L'ère de la Résistance, et l'autre qui sera dédié à la BD Fallen Order Dark Temple, et ainsi que la BD Galaxy's Edge.
Yes, et on vous rappelle que vous pouvez prendre nos émissions sur toutes les bonnes plateformes, iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Apple Podcasts. Une dernière fois, on va remercier nos partenaires Mintin Box, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction. De la part de GF et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la Force soit avec vous!